Gilbert Tarel présente Au clair de la plume sur Radio Grand Ciel. Notre second invité pour cette émission littéraire Au clair de la plume, qui vous propose de découvrir les talents locaux, n'est autre que Frédéric Parra, à mon avis la plus brillante des plumes locales, aux éditions Ella. Frédéric en est à son quatrième ouvrage, sauf erreur, Le secret des carnutes, en deux tomes, Elliot et la malédiction du berger sorcier, prix notamment du roman jeunesse de la vis de Rambouillet 2016, et La chambre des guetteuses, prix du roman policier d'Eure-et-Loire 2016. Mais nous allons d'abord parler avec notre invité de sa dernière publication, Les disparus du vieux puits, premier volume du club Axolot, destiné en premier lieu aux adolescents, n'est-ce pas ?
Oui, c'est tout à fait le cas. Bonjour.
Bonjour.
C'est un roman qui est destiné effectivement aux adolescents, mais qui vise aussi un public adulte, dans la mesure où il va traiter d'ésotérisme et de thèmes qui peuvent amener aussi les adultes à réfléchir.
Et vous co-signez donc Les disparus du vieux puits avec Sabrina Combe. Pourquoi cette écriture à quatre mains et en quoi cette expérience a-t-elle été utile pour vous ?
De manière générale, je n'aime pas écrire à deux, on va dire. Mais pour ce roman-là, j'avais besoin d'un apport historique. Et il se trouve que Sabrina Combe est professeure de lettres classiques, et j'avais donc besoin d'un apport historique au niveau de la vie sous Otricum. Hein, nous avions visité déjà plusieurs sites, et la ville de Chartres nous semblait idéale pour justement développer une histoire et une intrigue à mi-chemin entre l'enquête policière, l'ésotérisme et l'histoire. Donc Sabrina Combe a pu m'éclairer en apportant effectivement un certain nombre d'éléments à ce roman.
Bien. Le Vieux Puits est un quartier de Lucé assez populaire. Vous y enseignez l'espagnol au Collège des Pieds Sentiers. Et les élèves ont-ils joué un rôle dans l'écriture ou dans la trame du roman ?
Ils ont joué un rôle dans l'écriture dans la mesure où effectivement ils en sont les personnages principaux. Je trouve que de manière générale, on ne laisse pas assez de place à ces élèves-là. Je me faisais encore la réflexion lors de la précédente rentrée des classes, où la télévision nous abreuve de reportages tournés dans des lycées et collèges de centre-ville, des écoles élémentaires aussi. Mais on voit très peu ces élèves-là, en fait, qui sont issus de milieux moins favorisés et qui ont pourtant plein de potentiel. Donc l'objectif, effectivement, était de mettre un coup de projecteur sur ces enfants-là qui méritent qu'on s'intéresse à eux. Et je trouve qu'on parle beaucoup trop de voitures brûlées pour ces quartiers-là, mais pas assez du potentiel qu'ils renferment.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Le titre Les disparus du vieux puits semble un clin d'œil aux disparus de Saint-Agile, signé Pierre Véry en 1935 et adapté au cinéma 3 ans plus tard par Christian Jacques. Vous assumez cette parenté ne serait-ce que par l'humour ou est-ce le fruit d'un curieux hasard ?
Non, j'avais en souvenir le film en noir et blanc, bien sûr, hein, des disparus de Saint-Agile. J'ai lu plus récemment le roman, parce que je voulais voir un petit peu ce qui était à la base du film. Et effectivement, il y a un petit clin d'œil par rapport au titre, c'est évident.
Et de même, on pense inévitablement au Club des Cinq, qui a bercé notre enfance, mais en plus mûr quand même, nettement plus mûr. Le Club Axolot répond aux mêmes critères d'une association d'adolescents qui sont unis par un pacte pour résoudre une énigme, en l'occurrence la disparition d'un de leurs camarades de classe. Là encore, le lien est-il volontaire ?
Oui, il y a un clin d'œil aussi au Club des Cinq, au Clan des Sept, hein, puisque les personnages sont nombreux. Effectivement, je voulais quelque chose peut-être de moins transparent qu'un Club des Cinq, hein, avec des enfants qui venaient de familles issues, notamment de l'immigration. Et quand on lit le roman, on se rend compte que ces enfants-là ont tous plus ou moins un petit souci. L'absence du père, par exemple, est patente, hein, chez certains personnages, chez deux d'entre eux, notamment Abigail et puis Adrien. Adrien, d'ailleurs, qui est dyslexique. Donc, ce sont des enfants qui sont tous, sauf transparents, ils ont tous beaucoup de qualités et tous quelque chose qui pourrait faire que, effectivement, d'autres personnes plus aisées les mettent un petit peu à l'écart de notre société. Donc, l'objectif était de leur redonner une place au sein de cette intrigue.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous lire un court extrait de votre livre, Vous savez lequel vous pouvez choisir, ne serait-ce sinon que le quatrième de couverture qui nous donne une idée de votre style et de ce que vous écrivez.
Donc on va lire la quatrième de couverture, hein, qui est en quelque sorte le prologue du roman. Samir devina une forme drapée dans les ténèbres. Elle progressait vers lui. Le brouillard l'enveloppait presque entièrement, mais il aperçut une large cape noire glissant dans l'obscurité, comme flottant dans les airs. Il vit juste une main osseuse couronnée d'une chevalière fendre la brume. L'ombre porta un long sifflet à ses lèvres. Samir ne distingua pas son regard, dissimulé par une large capuche. Il ne perçut pas le moindre sifflement, juste la démarche boiteuse d'une créature qui se traînait le long de la voie pour surgir de la brume et lui planter ses crocs dans la gorge. Il n'entendit pas non plus son maître siffler pour la seconde fois, avant de le prendre dans ses bras et disparaître dans le brouillard. La pleine lune brillait à nouveau dans la nuit, et la créature à qui l'on venait d'arracher sa proie poussa un hurlement rauque.
Frédéric, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était un roman à destination des adolescents, mais pas seulement, un public adulte également. Est-ce que vous avez eu déjà des retours de lecteurs et des adolescents en particulier?
Je crois que la lectrice la plus jeune que j'ai pu rencontrer dans un salon était en CM2, elle l'avait lu. Mais c'est une grande lectrice, c'est-à-dire qu'elle lit déjà les Harry Potter et d'autres romans. Donc j'ai eu des retours très positifs. Et puis c'est vrai qu'on a travaillé aussi au niveau du CDI de notre collège. Et effectivement, on a pu leur fournir deux exemplaires qui n'arrêtent pas de sortir et les retours sont très bons. Les élèves se reconnaissent, aiment voir finalement qu'on ne les voit pas qu'à travers leurs défauts, hein, qu'on met beaucoup en scène leurs qualités. Je crois que ça leur plaît. Et puis apparemment, l'intrigue les attire beaucoup aussi.
Or, vous avez déjà écrit donc un premier roman jeunesse, Elliot et la malédiction du berger sorcier, donc, qui a été salué par le prix Apicius en 2015, et puis celui de la jeunesse de la ville de Rambouillet en 2016. Dites-nous en quelques mots, c'était la même cible ?
Non, j'avais envie d'écrire quelque chose pour un public plus jeune. La malédiction du berger sorcier relève plutôt de l'univers du magicien d'Oz, hein, notamment, c'est-à-dire pas de violence, plutôt un fond un petit peu écologique. Donc c'est vraiment un roman qui est destiné à un public plus jeune. Effectivement, le prix Apicius lui a été décerné parce qu'il y a une grande place qui est liée à la gastronomie. Et je pense que justement, les enfants ont besoin de cet univers au niveau gastronomique, au niveau créatif, pour pouvoir aussi s'exprimer.
Bien. Alors, vous avez également écrit des romans policiers, et notamment La Chambre des guetteuses, qui a eu le prix du roman policier, et là, en 2016. Là, le public est clairement un public averti, puisque le livre fait quand même presque 500 pages, et il nous entraîne dans un univers culturel plutôt pointu. Vous pouvez nous définir aussi exactement ce que c'est que cette Chambre des guetteuses ?
Alors, j'avais trouvé l'expression dans mes lectures « chambre des guetteurs ». Parce que lorsque vous parlez d'un univers culturel pointu, j'ai besoin d'une bibliographie pour construire mes romans. Et au fil de mes lectures, j'avais trouvé le terme « chambre des guetteurs », qui est un terme que l'on utilise apparemment dans la construction des cathédrales. Et si ma mémoire est bonne, parce que je n'ai pas pu retrouver la trace de ce titre, la chambre des guetteurs était en quelque sorte un lieu qui permettait aux surveillants du chantier, de se regrouper la nuit et peut-être de surveiller l'ouvrage. Donc je dis ça avec tout le soin qu'on peut prendre, parce qu'effectivement je n'ai pas pu retrouver exactement le passage dans lequel j'ai lu cette qualification, et j'ai utilisé le féminin parce que je pense que La Chambre des guetteuses est malgré tout un roman profondément féministe, au second degré, bien sûr, et donc j'avais envie de rendre aussi cet hommage, et j'ai trouvé le titre à la fois beau et intriguant, tout simplement.
D'accord. Vous avez commencé votre carrière d'auteur il y a 4 ans, je crois, de mémoire.
C'est ça.
Avec Le Secret des Carnutes, dont le premier tome, le premier volume s'intitule Avant l'aube, une étoile, et le second, Les Conjurés de l'aube. Jamais 203, je suppose. Le prochain est prévu pour quand? Vous pouvez nous dire quelques mots de votre personnage principal si attachant?
Donc le prochain roman pour Alfred Molina n'est pas encore pensée, on va dire, parce que c'est un roman qui... Le roman policier, d'après la conception que j'en ai moi, demande beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'étant enseignant en plein temps, ça me demande beaucoup de recherche, beaucoup de lecture. C'est pour ça que j'ai préféré me tourner pour l'instant pour le roman jeunesse, qui n'est pas facile à écrire, mais qui demande moins de travail d'un point de vue bibliographique. Donc pour l'instant, le roman policier pour adultes est en attente, on va dire, parce que j'ai besoin d'utiliser mon temps pour d'autres choses, tout simplement.
D'accord. Moi, je vois deux lignes de force communes à ces quatre ouvrages, ou cinq ouvrages, si on compte qu'il y en a deux pour le Secret des Carnutes. Ce sont des énigmes à caractère policier, des enquêtes, des investigations, comme on voudra, ce qui en somme toute assez commun. L'autre, les moins, il est toujours question d'ésotérisme, vous en avez parlé dès le début de l'interview, dans vos ouvrages. Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine? Comment le définiriez-vous? Puisque souvent c'est associé à des forces obscures, malfaisantes et avec une réputation plus ou moins sulfureuse.
Bien, je crois que lorsque j'écris un roman policier, y compris un roman pour la jeunesse comme le Club Axolotl, il faut que quelque chose m'intrigue moi au départ. C'est-à-dire que dans les deux premiers tomes, Avant l'aube, une étoile et Les conjurés de l'aube, j'avais besoin de travailler sur l'astrologie et sur l'alchimie, deux sujets qui m'intéressaient énormément. Donc ça m'a permis de lire sur ces sujets-là. Dans La chambre des ghettos, c'est plutôt la cabale. Et là, j'ai eu besoin de beaucoup me documenter parce que je ne connaissais pas le sujet. Donc à la base, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'intrigue moi pour que je puisse ensuite transmettre. Ça, je crois que c'est important. Dans mes romans, effectivement, j'ai envie que le lecteur trouve matière à divertissement. Mais j'ai aussi envie qu'il apprenne quelque chose. C'est ça qui est important.
D'accord. Et vous avez également commis quelques nouvelles. On peut savoir sur quoi vous travaillez actuellement si votre métier d'enseignant ne vous occupe pas à temps plein. Et dans quelle direction maintenant vous tournez éventuellement, puisque vous êtes un auteur très éclectique et toujours aussi surprenant. Question subsidiaire. Quels sont vos deux ou trois auteurs de prédilection ou deux ou trois livres de chevet?
Alors, pour ce qui est de la première question, j'écris rarement en période de rentrée. C'est le moment où on a besoin d'être près des élèves pour faire connaissance, hein, pour prendre en main les classes. Donc, c'est vrai que le travail d'écriture passe au second plan. Par contre, c'est un petit peu l'automne aussi, on respecte les cycles naturels. C'est le moment où les idées peut-être vont être mises en terre. Et à partir de ce moment-là, j'aime bien penser les choses à l'automne, de manière à commencer à les travailler au printemps. Donc effectivement, c'est un peu la période de pause pour tout ce qui est écriture. Mais le prochain travail sera sûrement un roman jeunesse dans la veine du Club Axolotl. Hein, pas le roman policier pour l'instant, mais le roman jeunesse. Pour ce qui est des livres de chevet, je lis peu de romans policiers. J'ai jamais été un grand lecteur de romans policiers, c'est peut-être pour ça que j'en écris d'ailleurs. Mais les livres de chevet, je dirais, sont plutôt des ouvrages de réflexion. Voilà, peu de romans. J'ai eu ma période roman quand j'étais étudiant, beaucoup de Garcia Marquez notamment, plutôt du roman latino-américain, hein, et du roman policier mais espagnol cette fois avec Vázquez Montalbán notamment. Mais les romans que j'ai actuellement ne sont pas des polars de 500 pages, ce sont plutôt des ouvrages de réflexion, des essais, voilà, plutôt des ouvrages de ce type-là.
Vous avez un ou deux titres, un ou deux auteurs, c'est ce que vous appelez des ouvrages de réflexion?
Ça peut être des ouvrages de philosophie.
Ah oui, carrément.
Voilà, plutôt des ouvrages de ce style-là qui ont pris le pas sur la narration pure et simple.
D'accord. Eh bien, bon courage pour votre prochaine production et à très bientôt, Frédéric.
Merci beaucoup.